Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Fariza dans le podcast. Elle va nous parler de son expérience, de son parcours de Burnie. Tu verras qu'elle en a vécu des choses dans son entreprise et que c'est des petites choses qui s'accumulent semaine après semaine qui font qu'il y a des craquages émotionnels et des craquages et des pétages de plomb tout simplement. Et que lorsqu'on n'est pas à l'écoute de soi, eh bien, on termine aux urgences. Moi, j'étais un peu spoilé la fin, mais promis, il y a quand même pas mal de rebondissements dans l'histoire. Et je te laisse les découvrir. Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, conseillère en naturopathie et coach anti-burnout. Ma mission, elle est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour reprendre ta vie en main au final, recharger tes batteries, retrouver ton peps, de la motivation et ta mission de vie. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana, voire un mec inspirant, on parlera échec, dévalorisation, burn-out, harcèlement, mauvais mood, démoralisation, dépression, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Si tu veux faire le point sur ta situation, si tu veux vraiment sortir de ton cercle vicieux du stress, si tu veux vraiment mettre en place les bonnes actions pour voir le bout de ce tunnel morbide, eh bien je t'encourage à réserver ton appel diagnostic. C'est 30 minutes pendant laquelle on fait connaissance, je te pose des questions pour voir si je peux t'aider. Si c'est le cas, je te propose mes solutions, sinon je t'oriente vers ce qui me semble le plus pertinent. Alors avant de commencer l'épisode, j'aimerais te lire un message que j'avais reçu via Instagram par rapport au podcast. Coucou, alors je viens d'écouter ton premier podcast et j'ai qu'un seul mot à te dire, merci. Ça m'a aidé à de grosses prises de conscience. Je pense que cela fait plusieurs temps que je suis dans un état de burn-out et que personne ne me comprend. C'est pour ça que moi, qui suis ambitieuse de base, j'ai abandonné mes études, fait des petits boulots, mais ça guérit. Je vais prendre le temps d'écouter tous tes podcasts et prendre conscience de ce que je vis. Encore un grand merci. Alors, je peux pas citer la personne parce que voilà, c'est un message privé sur Instagram, mais en tout cas, ce genre de message, moi, ça ne me laisse pas indifférente. C'est-à-dire quand je reçois des messages, c'est pas juste de la flatterie, ah, t'as vu, je fais du bon taf ou je ne sais quoi, mais vraiment, quand te jette comme ça cette prise de conscience, je suis accomplie, quoi. Je me dis, j'ai mené à bien ma mission, c'est mon travail quelque part, je suis là pour faire tomber le voile qui te fait croire que tout va bien et que, en fait, c'est normal ce que tu vis. Non, je suis là pour taper, pour faire du bruit et dire que c'est pas normal d'être mal dans sa peau et d'avoir un métier qui nous rend triste et d'être harcelé et d'être... Bref, on a le droit, en fait, d'être heureuse. Et si je peux aider, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à te mettre en mouvement et est-ce que tu changes quelques petites actions au quotidien pour aller mieux, pour moi, je me dis, c'est bon, c'est mission accomplie. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode.
Bonjour Sarah, bonjour à tous. Je suis Fariza, j'ai 41 ans et je viens de parler de ma petite expérience, comment je suis arrivée à un burn-out il y a quelques années. Durant 8 ans, j'étais assistante en ressources humaines. Et un jour, j'ai décidé en 2009-2010 d'entreprendre une formation parce que je voulais évoluer et me sentir utile, entre guillemets, même si mon boulot m'apportait ce que je voulais avoir un petit plus les week-ends et bosser dans ce que j'aime donc, actuellement, donc la photo, la mode, le maquillage. En 2010, j'ai entrepris une formation durant 4 mois en tant que conseillère en image, pour devenir conseillère en image indépendante. Et tout s'est bien passé. À mon retour de cette formation, donc en revenant, mes collègues m'ont dit « Ah bah, tu vas démissionner ». Et c'est là que j'ai vu que les comportements ont commencé à changer envers moi. Quand je suis revenue de cette formation, je n'avais plus de bureau. Voilà.
Ok. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.
Voilà. Déjà, en fait, j'arrive. Donc, ils savaient que je revenais. Je t'assure, je n'avais plus de bureau. Donc, je demande où est-ce que je me mets. On m'a laissé pendant une semaine. On m'a prêté un autre service. Et j'étais dans une pièce, seule, avec un ordinateur, et je recevais aucun mail à la journée. Rien. De walou.
T'étais mise au placard.
J'ai été mise au placard. Et je vous assure, au sens propre comme au sens figuré, parce que c'était un tout petit bureau avec une petite fenêtre. Personne ne venait me voir. Je dis, je ne comprends pas, je reviens de ma formation. Bah, écoutez, par exemple, vous prêtez un service, vous allez donner un coup de main. Donc, je donne un coup de main à, je ne sais plus quel service, c'est dans le milieu, dans le RH. Voilà. Mais c'est des choses que je n'ai jamais faites, donc c'est hyper difficile pour moi. Donc, d'un coup, je commence à me sentir submergée, parce que je dis, mince, on me met une pression, je reviens, je n'ai pas de bureau. Et en plus, on me donne des choses que je ne sais pas faire. Et moi, dans ma tête, au lieu de leur dire, je ne sais pas faire, ah non, c'est bon, je vais gérer, parce que j'étais tellement contente de me dire, tiens, je vais retravailler. Donc, j'étais là à fond et voilà. Ça a continué comme ça peut-être pendant 15 jours. Et un jour, du jour au lendemain, je ne reçois plus de mail. Et en fait, on ne m'avait pas dit que c'était... On m'avait remis dans mon service, mais sans prévenir. Donc, j'appelle la personne. Je dis, mais je ne comprends pas. Voilà. Moi, je dis rien. Je vais voir mes autres collègues encore. Est-ce que vous avez du travail? J'étais en train de demander du travail. Alors qu'ils étaient en sous-effectif. Hein. C'est ça le pire, en fait. Je me dis, c'est pas grave. Et à un moment, je pète un câble. J'appelle une de mes tantes, ma tante est avocate. Je dis, tata, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à rédiger un courrier officiel pour leur dire, voilà, je comprends pas, je reviens de ma formation et je suis mis au banc de la société.
Tu vois, donc là, je veux travailler.
Alors, n'importe qui te dit, mais tu t'en fous, t'es payé. Ben non, c'était quand même, tu te lèves le matin, en plus, t'imagines, tu fais Aulnay sous bois, la défense. Je ne sais pas si vous connaissez ce parcours RERB, RERA, tous les jours.
Rien qu'avec ça, tu fais un burn-out, même si déjà ça se passe ça. Très bien au boulot.
Déjà, juste le trajet, déjà, c'était une aventure tous les jours. Et tu arrives et tu es là, waouh. Et tu sais, les autres, ils sont tous en cohésion de groupe et toi, t'es là au petit déjeuner avec eux, on ne te calcule pas. Quoi. Et ensuite, moi, je parlais de mon activité à mes collègues, innocemment. Ah bah j'essaye de monter ça, je suis en train de monter ça. Ah, et on me posait des questions, on tirait le verre du nez, mais bon, j'avais pas fait attention. Le piège qui allait se refermer sur moi. J'étais trop passionnée, trop dans le partage.
Bon, trop authentique.
Trop authentique et ça ne plaît pas. Et ce fameux courrier, en fait, je l'envoie directement au... Je n'ai même pas cherché N+1, N+2, le numéro 2 de la société. Ils m'ont trouvé un service par miracle, alléluia. Et heureusement que j'ai fait ce courrier parce qu'il va beaucoup m'aider par la suite.
Par la suite.
Et au fur et à mesure, et là, les problèmes ont commencé quand j'ai commencé à avoir des... Après le boulot, j'avais des prestations. Donc, je ramenais mon matériel avec moi parce que le soir, je savais que j'allais voir des clients. Et là, je commençais à avoir des petites remarques de mes chefs. Ah, mais tu fais quoi? Pourquoi il y a ça? Je dis, après le boulot, moi, j'enchaîne une autre journée, entre guillemets, pour moi. Et ainsi de suite, jusqu'à que ça a commencé des petites piques. Ouais, mais Farisa, t'es en train de travailler sur le boulot, sur ton activité? Non, pas du tout, c'est après le boulot. Et à la pause déj, ce que je faisais, l'erreur que peut-être que j'ai faite, c'est que des fois, je restais en poste, je me prenais un petit sandwich, mais c'est mon heure de déjeuner, je me posais dans une salle et je bossais sur mon activité.
Mais tu fais ce que tu veux.
C'était mon heure de déj. Mais on me l'a reproché. Je dis, c'est sur mon temps de repos. Donc à un moment, je m'étais fait... convoqué entre guillemets, Farisa fait attention. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai expliqué. Donc, ça a été. Après, ce qu'ils ont fait, c'est que à un moment, j'étais un peu trop grande gueule.
T'étais trop en quoi? J'ai pas entendu.
Un peu trop grande gueule, pardon.
Ah, ok.
C'est qu'à un moment, j'avais vu des. Il y a un collègue à moi qui se faisait harceler. Il se faisait harceler et j'ai dénoncé au syndicat. Donc, en fait
toi, t'es la totale.
C'était la totale. Et c'est remonté très haut. C'est parti un petit peu, voilà. Donc, il y a mon nom.
T'as échappé des mains.
Voilà, ça m'a échappé. Parce que je trouvais ça inadmissible. C'était avant MeToo, toutes ces choses-là. Hein. C'est là, je parle des années 2010-2011. Et en fait, donc un des chefs qui s'amusait à le rabaisser, on était sur des grands plateaux, les ingénieurs informatiques, et il faisait des remarques désobligeantes. Mais c'est pas possible. Et tout le monde, il y a ceux qui baissent la tête, ceux qui rigolent, ceux que j'ai pas vus, les assistants qui étaient là, des vraies pestes, hein, des hyènes, je les appelais les hyènes. Pardon de parler comme ça, mais c'est en train de rigoler bêtement. Hein. Tu regardes ça, surtout moi. Ah là, tu vois, et en plus, moi, tu vois, je c'est pas choc. En train de me victimiser, un truc comme ça, parmi ces personnes-là, j'étais, on va dire, une des rares maghrébines issues. Donc, j'entendais des choses sur les banlieusards, j'entendais des choses sur les gens d'origine maghrébine. C'était tout ça. Donc, tu vois, toi, t'entends ça, Je dis, non mais attends, ils oublient que... Est-ce qu'ils ont vu ma tête?
Il y a des lois, en fait.
Il y a des lois en France. Voilà, mais comme ils étaient entre eux, c'était un milieu de nantis. Je ne suis pas en train de casser les gens qui ont les moyens, en tout cas, c'est pas ça. Mais c'était un autre univers. Et lui, le pauvre, il disait rien. Et il encaisse. C'est juste qu'un jour, on n'est plus de nouvelles de lui. Il a fait une tentative de suicide. Je ne voulais pas rentrer dans cette histoire-là parce que
c'est... Non, mais c'est vraiment super utile, hein, ce témoignage, parce que les gens pensent... Je pense que le harcèlement moral, il est bidon, que oui, ça laisse des traces, mais pas tant que ça. Alors que le harcèlement moral, vraiment, ça pousse au suicide. Et tu le vois pas venir parce que tu es là, tu donnes le change, tu fais semblant d'être bien. Donc les autres ne voient pas en fait ta détresse. Lui, et toi non plus. Voilà, tu la vois pas grandir en toi.
Donc les syndicats, par exemple, tu veux témoigner? Ben oui. Parce que les syndicats, j'ai témoigné. Et donc, cette histoire-là a déclenché encore plus d'hostilité envers moi. Donc, ce qui s'est passé après, c'est qu'on m'a fait croire que j'avais une promotion. Donc, Fariza, nouvelle année, on fait bilan annuel d'activité où on fait un bilan de tes objectifs et tout ça. Cette année, Fariza, tu vas travailler pour deux chefs de service. Donc, il y avait le mien et un autre. Donc, hyper contente, tu es hyper, c'est trop cool. Et à un moment, donc, la cadence commence à doubler. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment, mon chef numéro 1 me demandait un truc à faire. Oui, Fariza, s'il te plaît, ASAP, je veux que tu me fasses ça. Et genre 10 minutes après, t'as l'autre qui arrive et me dit là, tu lâches tout, ASAP, je veux des trucs. Donc tout le temps. Et moi, tu sais, au début, oui, tu sais, la fille, je veux tout faire, moi, je suis capable.
Ah ouais.
J'étais là à fond, je mangeais plus à l'heure du déjeuner où j'étais avec mon sandwich en train de continuer à bosser pour pouvoir répondre aux demandes. Et après, ça a été le cercle. Voilà, c'est de plus en plus. À un moment, je restais tard. Mais tu sais, des fois, j'arrivais plus tôt. Mais une folle furieuse pour pouvoir répondre aux demandes. Donc, tu es à la fatigue, les transports. Tu es là en train de penser. Les petites piques de mes collègues. Ah, mais tu n'as pas bien fait les choses comme ça. Et après, ça a commencé par. Je me rappelle, il y a un petit chef Fayon. Donc, lui, là, ce qu'il me fait, là, le jour même. Il vient me voir, Fariza, il faudrait... Mais tu sais, d'un air, comment vous dire? Il m'a regardé, genre, Fariza, il y a des clients, il y a telle banque qui est là, veux-tu me faire 14 cafés? Mais il l'a demandé d'une façon, en fait, genre, femme, 25 ans, il y a mes invités là, veux-tu me faire 14 cafés? Je le regarde, je lui dis, excuse-moi, Antoine, as-tu... Donc je resterai, tu sais, très, très en mode
production. Factuel. As-tu fait le process
Le process. As-tu passé une commande auprès pour que je puisse l'envoyer à la salle d'exo, parce qu'on bosse avec eux, pour qu'ils nous livrent le petit déjeuner. Ah non, mais là, j'ai pas eu le temps. Mais là, t'as même pas à me demander. Là, c'est nos clients importants. Donc là, tu me fais des cafés. Ah. Je le regarde comme ça. Et là, j'ai dit, là, il y a le côté un peu 9-3 qui est remonté d'un côté. Pardon. Je lui dis, tu sais que tes cafés, tu vas te les faire tout seul. Et c'est parti très haut, il est parti se plaindre au chef. Qu'est-ce qu'il fait? Donc la réunion se passe, donc le chef, lui, m'a convoqué plus tard. Et avant la réunion, donc le petit truc qui a commencé à me faire, il a vu comment la sauce est montée très vite. Je pars déjeuner, je reviens, tous les cafés, il les a débarrassés sur mon bureau.
Tiens, fais la vaisselle.
Voilà, c'était ça. J'ai pété un peu. Moi, quand j'étais à fond au boulot, parce que j'étais saturée, j'étais au téléphone avec quelqu'un. Et ils sont en train de discuter, et ils ouvrent la porte et la referment pas. J'ai crié, comme une hystérique. Ils m'ont tous regardé, mais qu'est-ce qui lui arrive, celle-là? Je dis, mais vous savez pas fermer les portes? Je suis au téléphone. Et t'as que la personne qui m'entend, parce que j'ai posé le téléphone, j'ai pas accroché, en train de péter un câble, et l'autre, il me dit, mais tu te prends pour qui? Elle a déjà respecté. Voilà, et c'était des petits trucs comme ça, des petites choses comme ça. Donc je me fais encore convoquer. Et donc, ils ont vu ça. Donc après, on m'a rajouté de la charge, jusqu'à 15 jours, en fait. Je suis tellement en état de stress. J'arrive, et le matin, par exemple, je me levais, je me dis, comment je vais... Déjà, dans le conditionnement que j'avais le matin en me levant, j'y allais à reculons. Mais je ne comprenais pas. Alors qu'avant, j'y allais avec plaisir. Et comme ça, de fil en aiguille, jusqu'à un jour. En fait, la cerise sur le gâteau, c'était un collègue, en fait, a fait du harcèlement. Il est devant moi avec ma collègue et il la prend par la taille et il simule un acte sexuel. Le chef, c'est un chef. Et je dis, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? C'est vraiment dégradant, dévalorisant. Pour la collègue, c'est irrespectueux. Elle est peut-être gênée parce qu'il y a un lien de subordination, tu vois. Donc, c'est le patron, c'est le chef. Il me dit, ah, mais c'est bon, je suis sûr que tu aimes ça. Je lui dis, pardon. Et donc, il commence à se rapprocher de moi. Je lui dis, non, mais tu fais quoi, en fait? Il refait la même chose quelques jours avant, mais là, en fait, je me rappelle qu'on revenait de déjeuner, il y a le local courrier, je me rends au local courrier, il y a toute l'équipe, il me suit dans le local courrier, les gens le voient, ils me suivent dans le local courrier. Il rentre avec moi dans le local courrier et il ferme la porte. J'écoute, c'est très simple. Là, t'as que de la gueule, vas-y, fais un truc, mais par contre, t'assumeras parce que je vais te défoncer. Et voilà, et ça m'avait beaucoup travaillé. Et quelques jours après, c'est qu'à un moment, un responsable RH me demande un dossier sur « Oui, t'as pas bien fait le contrat », et il revient à la charge, et il y a eu du bruit. Heureusement, ce qui m'a sauvé aussi, quelques jours avant, j'avais envoyé un mail en leur demandant « S'il vous plaît, aidez-moi à prioriser, parce que les deux me demandent, vous me demandez des tâches en même temps, je peux pas me scinder en deux. » Ce mail m'a énormément sauvé lors des prud'hommes, parce que ça s'est terminé en licenciement. Et je me rappelle être pas bien, tu sais, d'un coup je bloque, et d'un coup je dis « Ma collègue, je sais pas. » Il y a un truc qui ne va pas, je commence à perdre la vue. Ça veut dire que sur toute la partie extérieure, je ne vois plus sur les côtés. En fait. Et un petit phare, et grosse panique, elle appelle les pompiers, tu sais, de la tour. Mais le temps qu'ils viennent, moi, j'ai eu une grosse panique. Je me rappelle être partie voir mon chef. Je lui dis, écoute, un tel, je ne vais pas bien, je vais aux urgences. On revenait de déjeuner. Je lui dis, je ne suis pas bien, je te vois que là, mais je ne vois pas sur les... Je te vois devant. Qu'est-ce qu'il me répond? Ah, mais toi, il t'arrive toujours un truc. Je prends mes affaires, je vais aux urgences toute seule au 15-20. Donc dans la rue, tu vois, je vois que devant moi, je marche comme ça, je me suis en train de pleurer là. J'arrive aux urgences, et ils me prennent très rapidement, et la vue commence à revenir, et il me dit, mais madame, vous savez que là, votre corps, il vous dit stop. Vous faites un burn-out. Je dis, mais non, c'est quoi ça, burn-out? Comment ça, burn-out? Non, burn-out, il n'y a pas de burn-out, mais moi je suis incapable, moi je suis une superwoman, c'est ma part. Je ne peux pas faire un burn-out, c'est quoi ça? Ça n'existe pas dans mon vocabulaire. Il me dit non, il faut que vous vous arrêtiez. Il me dit là, par contre, je vous arrête 3 jours, mais il faut absolument que vous alliez voir votre médecin traitant. Et en fait, donc j'envoie l'arrêt maladie, ça va mieux, mais je dors mal, je ne suis pas bien. Voilà. Et en fait, le jour J où je devais reprendre, je me prépare le matin, tout va bien, je dis. Et je bloque devant ma porte de chez moi. Et je commence à pleurer 2 heures. Je suis restée 2 heures sur mon canapé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et mais pleurer, mais incompréhensible. Impossible de sortir, mais vraiment un blocage. Mon corps a dit stop.
Bah, en fait, ça avait commencé bien avant. Oui, tu sais, oui. Quand tu dis que tu étais sensible au bruit, oui. La porte qui ne se ferme pas, voilà. Tu démarrais au quart de tour. Oui. En fait, tout ça, déjà, c'était ton corps qui disait « je suis en surcharge, il faut que tu arrêtes ». La fatigue chronique qui va te rendre irritable au moindre truc. C'est-à-dire, si t'avais des enfants, les cris t'auraient mis hors de toi. Oui. Si t'as des voisins qui font un petit peu de bruit, ça t'aurait mis hors de toi. La voiture qui passe, un petit klaxon, une moto. En fait, le bruit, on devient très sensible au bruit et tout simplement, on est irritable. Tout est craquage, c'était ça. C'était vraiment ça, en lien avec un stress chronique. T'étais trop en hyper-vigilance, oui. Et du coup, tu captais tous les bruits, tous les mouvements, toutes les paroles, tous les rires, tous les gestes déplacés, tu vois. Oui. Ça se trouve, si t'étais détendue, il y aurait des choses que t'aurais peut-être même pas vues. Mais là, t'étais trop en hyper-vigilance, oui. En fait. Exactement. Et tu sollicitais tes neurones, tu sollicitais tes réserves physiques et le corps, petit à petit, il t'envoyait des signaux. Toi, tu voyais pas, tu voulais pas voir. Du coup, il t'a dit, je vais te couper tout.
Je vais te couper la vue, tu vas voir, si tu vas pas voir. Surtout, moi, c'est essentiel par rapport à l'activité. Conseil en images, make-up et photo. Plus de vue.
Ah ouais.
Et tu sais, la panique, je dis, ça y est, la photo, comment je fais? Je vais plus voir. Bah ouais. Le truc, le monde qui s'écroule, là.
Bah, quand on parle de somatisation, tu sais, par exemple, il y a une nana qui avait fait un burn-out pareil, un harcèlement assez général, mais aussi un harcèlement sexuel assez poussé. Oh là là. Ouais. Et elle disait qu'elle chopait des aftes, aftes qui ne voulaient pas guérir. Et en fait, avec sa thérapie, ça venait un peu dire... Elle devait verbaliser des choses, elle devait dénoncer, elle devait dire des choses, mais le fait de tout garder pour elle, ça pouvait créer ces aftes-là. Oh. Et pour les blocages de dos, ben c'est toutes ces personnes qui sont tout le temps assises, comme ça, cramponnées devant un clavier, des dossiers et tout ça. Ben ce blocage signifie quelque part qu'il faut que tu changes, il faut que tu sortes de ce bureau-là, il faut que tu sortes de cette chaise-là. Et du coup, toi, la vue, ça peut très bien être en lien avec tes mails, tes dossiers et toute ton activité là, avec tes chefs. Et la vue, c'était pour dire je coupe tout, tu quittes cet ordinateur, il faut partir.
Il faut partir. Et j'étais, En fait, moi, je suis une hyper sportive. Je pratiquais plus de sport parce que j'étais tellement fatiguée. J'étais là, je fais ça, mais il faut que je fasse ça. Et j'avais mes to-do list. Là, moi, je suis une spécialiste de la to-do list. Je me suis laissée dépasser. Mais avec le recul, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi je ne me suis pas écoutée? Pourquoi? Pour un boulot. Mais pour un boulot. J'ai failli, mon collègue a failli mourir. Tu vois, c'est pour un boulot. C'est quoi ce délire? Donc, j'ai été arrêtée 4 mois. Donc, aller voir un psychologue qui a commencé à m'aider, mais ça m'a fait un bien fou. Et qu'est-ce que j'ai pleuré à cette heure? Mais j'ai tellement pleuré.
T'as tout lâché. T'as tout évacué.
Ah, j'ai tout évacué. Moi, je dis, mais je vais plus avoir de larmes, c'est pas possible. C'était, voilà. Et des nuits blanches à cogiter. Mais des nuits blanches, mais je pète la forme. Hein. Ça veut dire que j'enchaînais des nuits blanches. Mais j'étais à la maison parce que je dormais après en journée, ça allait mieux. Mais j'avais besoin d'être là en mode, mais comment j'en suis arrivée là? Et ma famille ne comprenait pas. Mes parents, mais comment ça? Mais t'as arrêté, tu vas perdre ton boulot. Mais il faut reprendre le boulot. Mais comment tu peux être en arrêt maladie? Je dis, mais ça va pas, je suis pas bien. Mes parents, de ce côté-là, sur ça.
Et d'ailleurs, en parlant de la famille, en fait, est-ce que ton attitude avait changé, toi, au sein personnel?
Oui. J'ai été très. Déjà, je suis un tempérament très fonceuse et tout. Par contre, dans ma famille, eux, les pauvres, ce qu'ils ont pris, c'était ce côté. Je prenais plus de pincettes. Ça veut dire si j'avais un truc à dire, les pauvres, je crois que je les ai tués juste avec des mots. Hyper dur, bam, c'était du frontal, bam, bam, ça va pas, tu sais, j'envoyais bouler, quoi. Mais les 4 mois qui ont... Le premier mois, ça a été difficile, et j'ai avancé petit à petit. À peu près, j'ai dû reprendre en septembre parce que je n'avais pas le choix financièrement. Et j'y allais en reculant, non, je me sens pas prête.
Ah ouais.
Je me sens pas prête, j'ai pas envie d'y aller, Mais quand je suis arrivée, bah, toujours, poker face, oui, ça va mieux, merci. Ouais, non, mais vraiment, tout va bien. Alors que ça allait pas, je voulais pas repartir. Et au bout de quelques jours, on dit, ouais, Fariza, t'as eu beaucoup de congés. On arrive vers la fin de l'année, il faudrait que tu puisses...
Les prendre.
Les prendre, s'il te plaît. Je lui dis, ouais, mais je viens juste d'arriver, j'ai 4 mois. Tu sais, la fille en plus qui était là, mais je veux pas revenir, mais je me dis, oh, j'ai pas envie de prendre mes congés maintenant. Donc on me dit, bah non, il faut que tu prennes des congés. Donc je me dis, bon, allez, vas-y, c'est pas grave. Donc je prends des congés. Qui m'ont fait énormément de bien. Je pars à l'étranger et toujours dans le but aussi de mon activité à côté. Donc, mon activité, j'ai continué à essayer de la développer durant cette. Pour, tu sais, avoir cette chose qui me. Avoir un sens à ma vie, entre guillemets. Tu vois, donc, je dis, j'ai mon activité, allez, t'es en arrêt, j'ai bossé sur ça. Je reviens, et là, c'est là que ça se gâte. Là, c'était trop marrant. Je reviens, toute détendue, tu reviens de vacances et tout.
Bronzée et tout.
Voilà, bronzée, tu dis, mais c'est bizarre. Ce qui était marrant ce jour-là, quand je suis arrivée, il n'y avait personne dans mon service. Je cherche mes collègues, je suis bien sûr. Donc j'arrive, mon bureau, il y a ma collègue qui n'est pas là, d'autres personnes. D'habitude, c'est ça fourmille. Hein, t'sais, y a le... Je reviens, je vois que le big boss m'a appelé. Je le rappelle, oui, il me dit, Fariza, est-ce que tu peux venir? J'ai besoin de te voir. Hein. D'accord, j'arrive. Donc toute détendue. Assise, tout, oui. Il me dit, voilà, je voulais te voir parce que... Et là, je vais...
Est-ce que je vais te virer?
Voilà. Voilà, il me dit, on souhaite mettre fin à ton contrat. Nous trouvons qu'on a une incompatibilité d'humeur avec le chef que j'avais et ça ne va pas être possible de rester de travailler avec toi. Mais ne t'inquiète pas, tu vas faire ton... Comment on appelle ça? Ta période de... Tu sais, quand tu quittes, quand on te licencie, ta période
ton préavis.
Chez toi, ton préavis, voilà, tu es payé, tu restes chez toi. Moi, j'explose de rire. En fait, j'ai une crise de rire. Mais vraiment incontrôlable. J'ai dit, t'es sérieux? Il me dit, oui, là, tu prends tes affaires, maintenant, tu rentres chez toi. C'est que les fameuses hyènes, là, le groupe, là, et elles, je leur fais un petit coucou au passage parce qu'elles m'ont donné beaucoup de force parce qu'elles ont témoigné contre moi et j'ai gardé les témoignages. Je les ai encore. Hein. Et dans un des témoignages, ils font référence à la fameuse moment où je n'ai pas voulu faire le café.
Ah, mon Dieu.
Fariza, là, là, n'a pas voulu faire du café, collègue, c'est quelqu'un qui a une attitude, là, mais il fallait voir. Hein. Des personnes à qui je ne m'attendais pas du tout, je me suis fait laminer.
Tu sais qu'ils sont briefés.
Voilà.
C'est-à-dire, ces personnes-là, elles disent ce genre de choses, elles ont été briefées. Attention, tu dis ça, parce qu'en réalité, elles risquent aussi de perdre leur travail. C'est ça le Exactement. Problème. Je pense qu'aujourd'hui, il y a moins de combines, je ne sais pas, à confirmer.
À l'époque, c'était...
Il y a 10 ans de ça, déjà, les burn-out, ils étaient très mal vus par la société, par les entreprises, par la sécu. Il y a, je ne sais plus, moi, mais j'oublie à chaque fois mes sources, mais elle disait que son collègue, qui était son meilleur pote et qui lui a dit « Je ne peux pas témoigner pour toi si je veux garder mon boulot. Oh, tu non. sais que je suis d'accord avec toi, tu sais que je suis contre ce qu'ils ont fait, mais j'ai reçu une notification, quoi. J'ai reçu des ordres, en gros. C'est soit je témoigne contre toi, je garde mon taf, soit je risque de le perdre.
De le perdre, exactement.
Et elle s'est retrouvée au prud'homme avec des gens qui ont témoigné contre elle, mais ce n'est pas parce qu'ils ne l'appréciaient pas ou qu'ils étaient d'accord avec l'entreprise, c'est qu'ils sauvaient leur peau, en fait.
Leur peau, ouais. Voilà. Et ceux qui m'ont laminé, il y en a 4 là. Je ne m'en étais pas remis pendant un certain temps. Je me dis, comment c'est possible? Comment c'est possible?
Bah, ça touche l'estime de soi, ça dévalorise plus. Oui, et puis, de toute façon, je t'ai dit, tu es tellement en stress que tu es ultra sensible et ultra susceptible. Du coup, ça ne peut que te faire du mal. Mais du coup, toi, depuis, quand voilà, un peu prud'homme, donc licencié,
je gagne.
Mais voilà, t'as gagné,
j'ai
tout
gagné
ça.
Et j'ai continué à me soigner, à suivre, voilà. Et j'ai commencé à me reprendre, c'est-à-dire par le sport, par des moments pour moi. Ne plus me... Ça y est, je me mets un programme, donc j'ai un programme, voilà. Il y a du temps pour moi, il y a du temps pour mon activité, pour ma famille, pour mon sport, mais surtout du temps, beaucoup de temps pour moi.
Voilà. Et du coup, plus, après, tu as commencé à continuer ta thérapie.
Exactement.
Tu t'es remise au sport.
Au sport,
et puis, t'es accordé beaucoup de temps pour toi et pour
énormément,
tes projets.
Énormément, énormément. Et il y avait ce côté où j'avais honte au début de dire que j'étais suivie, parce que ça ne se faisait pas dans ma famille. Et au contraire, c'est cette thérapie qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée.
Donc, elle t'a permis à verbaliser,
verbaliser
et à trouver des solutions, quoi. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu as des routines, des habitudes, voilà, qui te permettent, tu sais, de rester connecté avec toi-même, histoire d'entendre les signaux de ton corps si jamais il t'en envoie, pour éviter justement de retomber dans la phase de résistance du burn-out?
Ben, c'est trop marrant, le yoga. C'est ma petite routine tous les matins, ou un matin sur deux, ça dépend des jours. J'ai besoin d'avoir cette routine-là pour moi. De me faire mon petit yoga le matin et de respirer, de m'ancrer, avoir ce petit temps pour moi. Et ça m'aide énormément, énormément. Ouais. Il y a aussi, je continue à voir ma thérapeute et j'ai en plus un petit rituel où je vais me poser dans un Starbucks ou dans un café, voilà, prendre un peu avant mon petit café, je me pose et je regarde les gens courir.
Et voilà. Moi, je suis posée.
Est-ce que ça en vaut la peine tout ça?
On le dit souvent comme conseil aux personnes qui sont en résistance de prendre le temps de respirer et ça paraît tellement bidon parce que tu vois, toi, t'es mal dans ta peau, t'as besoin d'un truc concret, genre miracle et tout, mais non, franchement, apprendre à respirer pour passer au cerveau repos, pour réduire le stress, diminuer le cortisol et être plus détendu, ça permet de mieux accueillir finalement la fatigue de la journée, ça permet d'anticiper de façon plus sereine et de faire tes tâches de façon plus sereine. Franchement, respirer, c'est très important. Prendre du temps pour soi, comme tu disais, avoir un thérapeute, avoir des routines le matin, prendre du temps pour soi, pour être connecté à son corps. Comme ça, si ce dernier nous envoie des messages, eh bien, on les entend, on les perçoit et on s'arrête, quoi. On s'arrête, on arrête de résister.
Exactement, parce que moi j'étais vraiment dans ce côté résistant et là maintenant je m'écoute plus et beaucoup beaucoup aussi d'aller dans la nature. Donc il y a un grand parc à côté de chez moi et me faire des petites balades, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, voilà, mais s'aérer, vraiment se reconnecter à la nature, vraiment, et observer autour. C'est peut-être gnangnan hein, ce que je dis là comme ça, peace and love et tout, mais je vous assure, se reconnecter tout simplement à la nature. Voilà, et j'ai arrêté la télé, j'ai arrêté tous ces trucs-là parce que c'est trop énergivore, trop de stress, trop de... voilà, ce qui se passe avec le Covid, stop, basta. Et accepter l'échec. Mm-hmm. Ou que ça n'a pas pu se faire maintenant, ou ça ne se fera pas, ou je vais le faire autrement. J'avais beaucoup de trucs, mais non, je ne peux pas, moi, ne pas réussir. J'avais mis tel objectif, j'avais mis ça en place. Et pendant longtemps, j'avais du mal, tu vois. Et là, maintenant, je dis, ok, ça n'a pas marché, tant pis, c'est pas grave, je vais tester autre chose, je vais le faire autrement, mais accepter. Accepter l'épreuve et me dire, voilà. Après, il y a le côté, moi, où il y a la croyance aussi, je suis très croyante, donc je me dis, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et je me mets d'autres objectifs, peut-être plus spirituels aussi, pour m'aider. Moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup en plus du yoga, du sport et tout ça. Et me dire, voilà, se détacher un petit peu de ce côté matérialiste. Mm-hmm. Ça m'a beaucoup aidé. Après, c'est moi, hein, ça m'aide. Après, ça peut être d'autres personnes qui vont croire autre chose. Mais moi, je sais que ça, sur ça, je me dis,
Bah, c'est ça le fait de faire un travail d'introspection et,
voilà.
et de se connaître et de se reconnecter à soi, c'est de savoir voilà. qu'est-ce qui par la suite va te faire du bien et qu'est-ce qu'il faut éliminer ou réduire parce que c'est néfaste pour toi.
C'est néfaste, donc, exactement.
Toi, tu nous donnes tes clés à toi, ce qui te correspond à toi, mais effectivement, l'autre, elle pourrait pratiquer la même chose que toi et ça ne va pas lui suffire.
Ça va pas lui suffire.
Mais son travail, c'est surtout de se connaître pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'elle mette en place.
Et c'est surtout s'aimer. Il y a eu beaucoup ça où je me... j'étais trop exigeante envers moi-même. Donc je me dis, non, c'est pas. Mais avec moi-même, hein, t'imagines, un tyran avec moi-même. Donc, et là, je me dis, j'ai lâché prise. Je dis, lâcher prise, ma flash. Oh, qu'est-ce que ça fait?
Détends-toi.
Détends-toi, la zen, respire. Une petite séance de yoga, là, ça va mieux. Mais il y a aussi, moi, comme j'ai ce côté hyper. Voilà, il y a le sport de combat qui va dessus. Voilà, je suis un peu violente.
Non, non.
Mais c'est besoin de. Voilà, j'avais besoin de verbaliser, mais avec du. Me dépenser physiquement. Voilà, moi, c'est comme ça. C'est physiquement, il faut que ça sorte.
C'est-à-dire, on est beaucoup dans le mental, dans la colère. D'autres types de personnalités, ils sont plutôt dans le ressenti, dans les tripes. D'autres, ils vont être beaucoup plus dans les émotions. Et t'en as, non ? Ils sont dans la colère et dans la colère, je veux frapper. Et du coup, faire de la boxe, courir, le sport, c'est idéal pour évacuer. C'est pas être violent.
C'est pas violent, mais
c'est ce dont ton corps a besoin.
Mais c'est génial.
Alors que d'autres, pour évacuer, bah, il leur faut juste une bougie parfumante, et un stylo, un carnet, une musique douce, et ça leur permet d'évacuer très, très bien. Donc, encore une fois, se connaître pour savoir ce qu'il faut mettre en place.
Et aussi quelque chose de très, très important, et ce que j'avais beaucoup négligé, le sommeil.
Quand tu as un taux très élevé de cortisol, c'est compliqué de dormir.
C'est compliqué. Alors, j'ai
donc, attaquer plutôt le cortisol, je dirais. Il faut réduire le cortisol et pour ça, comme tu disais, yoga. Parce que le yoga, tu peux le faire le matin, mais tu peux le faire le soir. La sophrologie, la respiration, la visualisation, les bruits blancs, bien manger des légumes verts avant de dormir, des tisanes sommeil. Vraiment, pour améliorer le sommeil, en fait, il y a tout un tas de choses à revoir. Il y a toute une hygiène de vie. Ça revient à réduire le stress, à améliorer son alimentation, à avoir une activité créative ou sportive ou relaxante. Et c'est comme ça que tu vas améliorer ton sommeil et c'est comme ça que tu seras moins fatigué et c'est comme ça que tu pourras mieux faire face à tes journées.
Toutes ces petites choses que j'ai mis en place, j'ai mis en place aussi des applications de méditation avant de dormir. Et j'ai vraiment changé mon alimentation. Tout ce qui était gluten, lactose, parce qu'il y a vraiment plus sorti dans mes analyses. C'est pas le truc effet de mode où j'étais sensible. Donc là, j'ai complètement changé ma façon de manger, ma façon de consommer, tout ça. C'est toutes ces choses-là entre 2015, au moment où je me suis fait licencier, et maintenant, waouh, tout ce que ça m'a apporté. Malgré que c'était des choses, des épreuves difficiles, mais je m'en suis sortie. Et voilà, c'est toutes ces petites choses que j'ai mis en place. Et là, ça va vachement mieux. Et je continue, voilà, je fais beaucoup de choses. Mais ça va, j'arrive à gérer mon stress. Et quand ça ne va pas, j'arrête.
Et c'est pour ça, j'insiste souvent sur des petites choses. Des petites choses, petit à petit, un jour à la fois.
Exactement.
Et au bout de plusieurs mois, au bout de plusieurs semaines même, avec l'effet cumulé, obligatoirement, il va y avoir un résultat. Alors que si tu pars avec des objectifs de ouf, jour au lendemain, je veux absolument tout changer, tu vas te rétamer, c'est tout. Donc, des petites choses, un jour à la fois, et des choses pertinentes, intelligentes, bien ciblées, pas n'importe quoi, pas n'importe comment. C'est pour ça qu'il faut être accompagné en réalité. C'est possible. Et tu n'es pas la preuve que c'est possible. De faire un burn-out et de remonter la pente et d'avoir une vie professionnelle épanouie, d'en vivre. Et c'est cool, quoi.
Exactement. Mais il faut être entouré de la bienveillance pour soi-même, pour les autres, s'entourer de bonnes personnes positives. Les gens négatifs, franchement, excellez. Ne perdez pas votre temps. Pardon d'être un peu, tu vois, je suis un peu directe. Après, quand des fois, c'est des proches, prenez de la distance. Mais voilà, ou leur dire directement, il faut le dire, il faut en parler. Écoute, là, par exemple, s'il y a des choses, ça ne va pas... C'était un peu trop négatif pour moi, tu vois. T'as pas besoin de prendre ce... Moi, par exemple, ce qui m'a angoissé, c'est les médias. Enfin, j'imagine pour tout le monde, mais les médias, j'ai arrêté. C'est pas possible. C'est plein de choses. Voilà. Et je me dis, mon cocon, c'est chez moi. Et ça a aidé pendant aussi le confinement, heureusement. Parce qu'en plus, je vis seule. Donc, ça a été, me créer tout un univers de bien-être chez moi. Un espace pour travailler, un espace pour me détendre, un espace pour du temps pour soi. Mais le plus important, ce qu'il faudrait vraiment... Ce que je pourrais dire aux personnes, écoutez-vous, aimez-vous, vivez, respirez, prenez du temps pour vous et dégagez le négatif. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais c'est faisable et on peut s'en sortir. un peu sur
cette merci beaucoup en tout cas, Fariza, pour ton témoignage. Ça fait plaisir parce que vraiment, tu as genre un parcours assez classique hein, pour un burn-out au final, mais tu en ressors avec beaucoup de positifs, c'est-à-dire que déjà, on capte qu'il y a un syndicat, qu'il faut faire appel à son syndicat.
Oui,
on capte qu'il y a un prud'homme, qu'on peut faire appel au prud'homme. On capte qu'il y a des thérapeutes et on peut être accompagné. On capte que le corps, à un moment donné, il envoie des signaux et quand tu ne les entends pas, bah, tu peux aller jusqu'aux urgences. Exactement. Mais ce n'est pas une fatalité. On se met à la respiration, aux routines self-care. On s'entoure des bonnes personnes. On met des objectifs, pas toujours dans la productivité, la performance, mais des objectifs pour soi aussi, pour prendre le temps pour soi. Exactement. Et on remonte la pente et on peut vivre d'un travail qui nous épanouit et qui paye nos factures.
Exactement.
Donc franchement, je trouve que le témoignage est assez cool, la conclusion elle est assez sympathique. Exactement. Donc merci beaucoup pour
merci
ton partage.
C'est un grand plaisir.
Merci plus pour ton écoute. Si tu as apprécié cet échange, tu peux me laisser un avis. Je le lirai aux prochains épisodes. C'est un peu ma manière de me nourrir pour me donner de la force et continuer à produire ce podcast. Tu peux d'ailleurs me mettre 5 étoiles et aussi tu peux le partager tout partout autour de toi. Ce sera ta façon de sortir toi de ton isolement, mais ça peut toujours aider quelqu'un qui, lui, et dans le silence et dans le repli sur soi. En tout cas, si tu veux qu'on continue à papoter, je te donne rendez-vous sur Instagram. Et d'ici la semaine prochaine, je te dis, booste ton feeling good.